Aujourd'hui, je vous parle d'une mobilisation qui a eu lieu mercredi dernier devant le tribunal administratif de Rennes, rue de la Motte. À l'appel de l'équipe du collège Échange et de l'association des parents d'élèves, plusieurs dizaines de personnes s'étaient rassemblées en soutien à la famille Nemsid Revidz, menacée d'expulsion depuis jeudi de la semaine dernière. Venus exprimer leur inquiétude face à la situation de Lacha, le cadet de la famille, scolarisé en classe de 5e au collège L'Échange, je discutais avec plusieurs soutiens sur cette OQTF, obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet le père, la mère et le grand frère de Lacha.
Je m'appelle Ophélie et je suis enseignante au collège Échange où est scolarisé donc Lacha. Alors moi j'ai appris ça jeudi soir par une collègue qui m'a prévenu que j'avais un de mes élèves qui allait sûrement être expulsé prochainement. Et donc en fait c'est arrivé jeudi matin dernier, le papa à la sortie des Restos du Cœur, il s'est fait arrêter par la PAF, la police aux frontières, directement embarqué et il est ressorti donc avec une OQTF, une interdiction de retour sur le territoire français et une assignation à résidence dans l'hôtel où ils sont donc dans un logement très précaire à Montgermont.
Il y a eu des recours qui ont été déposés pour le moment pour essayer d'invalider cette OQTF
Au niveau judiciaire, je ne sais pas trop. Là, on est au tribunal justement pour essayer d'empêcher ça. Mais nous, on s'est mobilisés après en rédigeant un communiqué. Il y a une pétition qui tourne sur Réseau Éducation Sans Frontières qui atteint quasiment les 750 signatures là ce matin. Et voilà, on se mobilise pour tenter de les faire rester sur place puisque la mère elle-même aussi s'est vue convoquée lundi matin à la PAF. Et même chose, elle est ressortie avec une OQTF, une interdiction de retour sur le territoire et une assignation à résidence. Donc là, c'est vraiment les parents qui sont sous le coup de l'expulsion. Le grand frère de 20 ans qui est scolarisé au lycée de Fougères, même chose, est sous une OQTF. Donc les deux enfants qui restent, Lacha, 12 ans, que j'ai en classe, et le petit dernier, Daniel, 3 ans, qui est né en France, qui a toujours été scolarisé en France. Voilà, c'est toute la famille qui va être expulsée et menacée dans leur pays. On a envoyé des courriers, des communiqués au rectorat, pas de retour. Des élus, j'ai vu qu'il y avait une élue qui avait signé la pétition, des élus de la ville, mais après, rien, pas de retour, ouais. Après, voilà, c'est pas un cas unique, malheureusement, à Rennes. Il y a d'autres enfants dans cette situation-là, et ils devraient avoir le droit de poursuivre quand même leurs études et leur scolarité en France, soit.
Ça fait un peu peur. On ne sait pas où on va, là, mais ouais, c'est ça qui fait vraiment peur. C'est que ça risque de se multiplier davantage, quoi. Ça donne vraiment la sensation d'une rafle, là. Et moi, on a été extrêmement choqués par la manière de faire, quoi, de la PAF, d'attendre à la sortie, comme ça, des associations, des Restos du Cœur, pour les récupérer et les renvoyer. Enfin, c'est totalement inhumain, quoi.
Une situation inhumaine à laquelle fait face la famille Nemsid Revidz, comme l'expliquait Ophélie. Les agents de la police aux frontières, la PAF, sont venus arrêter à la sortie des Restos du Cœur le père de la famille, une pratique abusive qui malheureusement est loin d'être isolée. Clémence, venue devant le tribunal soutenir la famille et le père dont l'audience se déroulait mercredi, m'a expliqué notamment son dégoût des pratiques de la PAF.
Moi j'étais prévenue par une amie qui est la prof de Lacha, qui est au collège L'Échange, et nous a contacté pour nous dire que justement le père venait de se faire arrêter à la sortie des Restos du Cœur, où il était parti chercher à manger pour sa famille. Ils étaient logés dans un hôtel, c'est tout simplement une sorte de rafle en fait, c'est ça le truc, c'est assez horrible. Et laisser des gens vus dans ces conditions, c'est inhumain en fait. Et les expulser, c'est encore pire. C'est les forcer à vivre cachés et à se déplacer de région en région pour à chaque fois tenter de survivre. Mais du coup, on ne peut pas scolariser des enfants comme ça, en fait. On ne peut pas les déplacer d'école en école. Et à partir du moment où ils sont scolarisés, ils deviennent français, en fait. Moi, je trouve ça logique qu'on devrait les laisser vivre parce qu'ils vivent un pays où il y a la guerre et la misère pour finalement vivre dans des hôtels miteux, vivre de ce qu'ils peuvent ramasser au Resto du Cœur. Et au final, on les expulse parce qu'ils essayent juste de vivre, en fait. Ils sont que déracinés de tout le temps, en fait. On ne leur laisse pas l'occasion de s'installer. Je crois que ça faisait 2 ans qu'ils étaient en France. Je sais qu'ils ont un enfant de 3 ans qui n'a jamais connu leur pays d'origine. Donc ça ne sert à rien de leur envoyer là-bas, quoi. Ils ont déjà traversé tellement. Pourquoi les renvoyer? Pour qu'ils vont retenter probablement de revenir. Mais là, ils ont aussi une interdiction de revenir en France pendant 1 an. L'État ne veut vraiment pas qu'ils restent ni les accueillir. Ils n'ont qu'à le dire, en fait, officiellement, que l'État a changé ses frontons de mairie pour dire enlever égalité, fraternité, liberté, pour changer par non, on vous accueille pas tout simplement en fait. Enfin, ils ont de belles paroles pendant les élections pour nous dire oui, on est là pour vous, pour vous soutenir, mais dans les actes, il y a personne en fait. Et ce serait bien que les gens se mobilisent plus et se rendent compte qu'en fait, on est gouverné par des.
Une action qui a mobilisé au-delà des parents d'élèves et professeurs de l'ACHA. D'autres, comme Christine, étaient venus pour Georgie, l'aînée de la fratrie, âgée de 20 ans et scolarisée en classe de terminale au lycée Guéhenno de Fougères. Elle nous explique, au micro de Syllab, la raison de sa mobilisation pour Georgie et sa famille.
Je m'appelle Christine Van Gen et j'étais jusqu'à il y a deux semaines gérante d'un espace de coworking, voilà, qui s'appelle Le Lavoir à Rennes.
C'est quoi votre lien avec la famille de Lassa, du coup, qui est sous le coup d'une OQTF aujourd'hui ?
Eh ben, écoutez, moi, j'ai eu un lien qui est très vite devenu très fort avec Guy, qui est le grand frère de la famille et qui est en train de passer son bac cette année. Il est en terminale et donc, dans le cadre de son bac pro, il a des stages à faire. Et moi, il est venu faire son stage pro, donc, dans mon entreprise. Et c'est juste un mec génial, quoi. C'est juste un gars, mais j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi, à la fois sérieux, ultra ponctuel, et aussi plein d'initiatives, plein de curiosité, vouloir vraiment comprendre comment les choses fonctionnent, et qui est extrêmement bien passé avec tous mes clients, super capacité de boulot, voilà, enfin, c'est le gars, moi je me suis dit, n'importe quelle entreprise qui l'engagerait aurait gagné énormément, et n'importe quel collectif, et n'importe quel pays, voilà. Moi ce que je pense, c'est qu'ils ne peuvent pas être séparés en tant que famille, et que c'est tout le monde, en fait. On ne sépare pas les parents, les enfants, etc. Moi, je crois que tous ces jeunes-là, Georgi, il a peut-être 20 ans, mais il en aurait 17 et demi, qu'est-ce que ça change ? Enfin bref, voilà, il est en train de tracer sa route, qui est une belle route. Il est extrêmement apprécié. Moi, je connais ses professeurs, je connais mes clients, je connais d'autres personnes qui l'ont employé. Il est super apprécié. C'est quelqu'un qui a envie de bien faire. Je sais que son petit frère, il est super apprécié aussi par ses professeurs, etc. Ce sont des personnes qui ont une énorme envie de rendre par rapport à ce qu'on leur donnera. Et je pense qu'en s'ouvrant à ça, tout le monde a tout à y gagner.
Est-ce que vous avez eu Guy depuis jeudi dernier où le QTF est tombé ?
Je ne l'ai pas vu, mais je sais que c'est très très difficile. Très difficile pour lui. C'est quand même des épreuves... des épreuves dont on n'a pas idée, quoi, des angoisses très lourdes, très très lourdes. Et on a communiqué, mais pas en se voyant. Et je lui ai dit que j'étais de tout cœur avec lui. Et voilà, le fait d'être ici, pour moi, c'est ça. Je suis là pour lui et je lui dirai. Et c'est ma manière de, je sais pas, c'est pas de le voir, mais de communiquer, quoi.
Des angoisses très lourdes et une situation inconcevable pour Georgie, Lacha et Daniel, le petit dernier des trois frères âgé de 3 ans. La situation est d'autant plus compliquée que le père de la famille, Nessim Revidz, s'est vu délivrer par la police une interdiction de retour sur le territoire français, impliquant avec l'OQTF l'expulsion de la famille sous 45 jours et l'impossibilité de retourner en France pendant un an. Gwenaël, professeur de français de Lacha, m'a parlé de ce jeune garçon, de ses conditions de vie et comment à son âge on fait pour gérer une situation aussi compliquée.
Gwenaël, je suis professeure de français, français langue étrangère en fait au collège et je connais Lacha depuis 2 ans en fait.
Qu'est-ce que vous pouvez me dire du coup sur la situation aujourd'hui de la famille de Lacha ?
Sa famille, en fait les deux parents ont reçu en fait un ordre de reconduction à la frontière en fait et ils vont passer là au tribunal aujourd'hui, le père en tout cas, la mère jeudi donc demain. Son frère aussi, donc on va dire les trois personnes majeures de la famille sont sous le coup effectivement d'une reconduction à la frontière. Voilà, Lacha, pour l'avoir vu hier, ça reste un enfant de 12 ans qui est scolarisé au collège. Il a besoin de cette stabilité-là aussi. C'est aussi un endroit où il peut manger correctement aussi, parce que c'est un des soucis de la famille aussi. Et il est très investi, plutôt partant, très intelligent, très fin. Donc, ne serait-ce que déjà le fait que son frère soit au lycée et que ça montre déjà une intégration depuis 3 ans. Lacha aussi est intégré, donc je vois. Voilà, le droit à l'instruction, c'est quand même, ça fait partie des droits français, j'imagine. Je crois bien.
Il y a beaucoup du coup de personnel d'éducation, de professeurs qui sont mobilisés aujourd'hui.
Par la pétition, oui. Sur RESF, en fait. voilà, donc qui a été diffusé auprès des parents, des collègues aussi, et aussi de l'équipe éducative du collège. Et aujourd'hui, alors comme des collègues ne pouvaient pas rester, on doit être 4-5 plus des AVS qui sont là pour nous soutenir aussi.
L'achat, j'ai pas parlé beaucoup de lui pour l'instant. Est-ce que vous pouvez me présenter un peu ce petit garçon ?
C'est un petit garçon qui est attachant, qui a les yeux, très très bleus et qui surtout met un point d'honneur à être un enfant comme les autres en fait. C'est-à-dire que ça arrivait plusieurs fois qu'il est, je voyais bien qu'il avait faim, qu'il n'avait pas dormi. Il travaillait et il y avait toujours un moment où il me disait « Est-ce que je peux te dire quelque chose ?» Donc il m'expliquait, il me montrait des photos de là où il dormait, il m'expliquait que son petit frère était malade, il me faisait part de ses inquiétudes, mais il continuait à travailler quand même. Donc ça montre déjà une force de caractère qui est aussi liée à son parcours migratoire. Et le fait qu'il ait besoin de stabilité aussi, que ça le sécurise, que ça l'aide à se construire aussi. Donc voilà.
De ce que j'ai compris, la famille de Lacha et Lacha, du coup, vous vivez dans une certaine précarité, une grande précarité, si on peut dire.
Plus depuis le mois de décembre, parce qu'ils sont logés donc à Montgermont, mais il y a eu plusieurs épisodes où ils ont été logés. Il y a eu les tentes auprès de l'auberge de jeunesse au canal Saint-Martin, par exemple, où il pleuvait beaucoup, il faisait très froid. À ce moment, il y a eu la tempête début octobre. Et c'est le moment où ils n'avaient pas forcément de quoi se nourrir. La preuve, le père a été arrêté au Resto du Cœur la semaine dernière. Donc ça prouve qu'il y a quand même une précarité sur ce plan-là qui perdure. Ça m'est arrivé, moi, de lui donner un sac de victuailles pour lui et sa famille aussi. Donc voilà.
Comment est-ce qu'il va, l'achat ?
Hier, il avait l'air plutôt, on va dire, serein, ça c'est pas le terme, mais je pense qu'il met vraiment un point d'honneur à cloisonner pour aussi pouvoir suivre les cours et être aussi dans une ambiance d'enfant de 12 ans avec ses copains, avec des préoccupations d'un enfant, quoi.
J'imagine que ça va demander une force énorme parce qu'il a été déraciné de son pays, il est arrivé en France, ça fait 3 ans qu'il est en France et là on lui dit que possiblement sa famille va être expulsée.
Ben, c'est le cas de beaucoup d'élèves migrants, parce que je m'occupe d'élèves migrants depuis un certain nombre d'années. Et déjà, c'est une leçon d'humilité pour tout le monde, parce que je ne suis pas sûre que quelqu'un serait capable d'apprendre un nouvel alphabet en même pas 2-3 mois, enfin, d'apprendre une nouvelle langue, des nouvelles règles, de s'adapter aussi vite en tout cas. Donc c'est aussi une des facultés qu'ont les enfants et les adolescents, mais il ne faut pas non plus les malmener sur ce plan-là. Et effectivement, ça met en colère et un sentiment d'injustice, mais ça souligne encore plus l'engagement qu'on a auprès d'eux.
Sur le plan juridique, on ne connaît pas encore la décision finale du tribunal administratif de Rennes, même si un recours est envisageable ou non pour la famille Nessim Revic. Pour celles et ceux qui voudraient apporter leur soutien, on vous mettra bien sûr le lien de la pétition avec le podcast de l'émission et on vous tiendra au courant sur la suite des événements.